intervenir en Syrie. Eh bien, on va en débattre ce matin. Renaud Malik, tout d'abord, on n'a pas entendu grand monde défendre l'idée d'une intervention ces derniers jours.
Ben non, effectivement, ce sont plutôt des voix isolées qui ont pris position en faveur d'une intervention. On a pu lire, par exemple, la tribune de Ronnie Brauman, l'ex-président de Médecins Sans Frontières. Il invoquait la nécessité morale de sanctionner Bachar al-Assad après le massacre chimique du 21 août. Et dans le même temps, il écrivait que des frappes ciblées n'auraient sans doute pas d'impact sur l'issue du conflit et que la négociation avec le régime syrien devait rester une option. Cette position pleine d'ambiguïté résume à elle seule tout le problème de l'intervention voulue par Washington et Paris. Les objectifs sont très flous, puisqu'il s'agit de punir Bachar al-Assad sans s'impliquer dans le conflit. Puis l'intervention est peut-être légitime au plan éthique, mais sans base légale, puisqu'elle s'effectuerait sans mandat onusien. On peut aussi se demander quelle serait l'efficacité réelle d'une intervention limitée à quelques frappes ciblées. Et puis surtout se demander si cette réponse militaire n'arrive pas tout simplement trop tard, plus de 2 ans après le début de la révolte syrienne.
Une intervention militaire en Syrie, pourquoi faire? Serait-ce selon vous une solution crédible pour cesser les massacres? Pour en débattre, j'accueille un irénologue, un historien et un journaliste. Et puis bien évidemment, vous pouvez nous appeler dès maintenant 0800 23 33 33 pour nous faire part de votre avis. Vous êtes en ligne directe, soyez les bienvenus.
En ligne directe, Nicolas Iskiaou, Renaud Malik.
Et ce matin, Jean-Pierre Fidu, Gabriel Galis et Gaëtan Vanès sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Fidu, vous êtes historien, professeur des universités à Sciences Po. Vous avez publié cette année chez Fayard notamment le nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne. Vous étiez en Syrie cet été d'ailleurs, vous êtes revenu avec une conviction encore renforcée qu'une intervention militaire est nécessaire. Vous n'êtes néanmoins pas satisfait de l'option défendue par Paris et Washington. Pourquoi ?
Oh, d'abord, c'est trop peu, trop tard. Et on voit que même ce trop peu, trop tard semble difficilement accessible. Ce qui est terrible avec ce drame syrien, qui a dépassé les 110 000 morts ces derniers jours, c'est que plus on attend, plus ce sera difficile. Donc plus ce sera difficile, plus on attend. Et l'historien que je suis voit malheureusement les composantes de tragédies du passé qui ne sont allées qu'en empirant et qui ont finalement obligé dans les pires conditions, au pire coût, une intervention, non plus pour sauver ceux qui étaient déjà morts, mais pour éviter qu'on aille vers une catastrophe de type régional, ce qui est ce que fera Bachar el-Assad, qui ne cédera rien de rien, et qui choisira toujours la fuite en avant. Il l'a fait en Syrie avec cette frappe chimique proprement hallucinante, et il le fera dans les pays voisins, il croit que cela peut sauver son régime.
Avec donc la possibilité de créer vraiment une vraie guerre dans le Moyen-Orient avec les différents pays qui pourraient être touchés par là. On a pu lire que la situation sur place est trop complexe pour que l'on puisse intervenir efficacement. Que répondez-vous à cela, vous qui êtes justement allé, encore une fois, je le rappelle, il y a peu de temps en Syrie?
De toute façon, la situation sur place, très peu de gens peuvent en témoigner. Je l'ai fait au début de cet été avec un risque qui était non négligeable, vu que c'était un mois après l'enlèvement de mon ami Didier François, journaliste européen, qui a donc été kidnappé au début juin avec le photographe Édouard Elias, et je tiens à témoigner une fois de plus de toute ma solidarité avec eux. Je devais accompagner Didier François, finalement je suis parti d'une autre façon un mois plus tard. Donc au fond, tout ce qu'on sait de la Syrie nous parvient de manière très amortie, très détournée, avec un Bachar al-Assad qui a gagné la victoire de la propagande, vu que ça fait 2 ans et demi de révolution, 2 ans et demi qu'il dit que son pays est soumis à une agression étrangère de terroristes et de djihadistes, et il suffit d'écouter le débat autour de nous pour voir que ça marche. En réalité, la situation est beaucoup plus simple, je ne voudrais pas la simplifier de manière caricaturale. On a une population qui s'est soulevée depuis 2 ans et demi, on a un régime qui a utilisé de toutes les armes possibles, y compris les missiles balistiques à son encontre. On a une rébellion qui s'est développée sur le tard, qui est sous-armée, qui donc du coup est divisée parce qu'elle n'a pas suffisamment de cohérence opérationnelle pour aller de l'avant. Et tout cela effectivement pour échanger si une frappe déterminée était menée, non pas pour renverser le régime, mais pour enfin dire au peuple syrien qui a été abandonné pendant 2 ans et demi que le monde ne l'a pas totalement laissé tomber et que d'ailleurs il ne le laisse pas tomber face à Bachar al-Assad, mais aussi face aux djihadistes qui sont ressentis comme une occupation aussi atroce que celle de la dictature.
Plus un message à vous comprendre, Jean-Pierre Filieu, qui serait donné donc en tout cas pour les populations sur place. Gabriel Galis est avec nous également. Je le disais, vous êtes le vice-président de la Fondation JIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, d'où vous êtes en duplex. Bon, vouloir la paix en imposant sa force, ce n'est pas la première, ni certainement pas la dernière fois que l'on verra ça et qu'on est face à cette problématique. Selon vous, Gabriel Galis, néanmoins, est-ce que ce serait une solution crédible aujourd'hui, une intervention dans les 10-15 prochains jours en Syrie, est-ce que ce serait néanmoins une solution crédible pour cesser une partie des massacres ?
Bonjour à tous et bonjour à Jean-Pierre Filieu, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à Genève il y a quelques années. Je crois que d'abord il faut remonter un petit peu le temps en arrière et poser quelques questions de cadrage. Les relations internationales ne sont pas régies par la lutte du bien et du mal entre les gentils et les méchants. Ce sont des relations qui sont gouvernées par des rapports de force, des raisons d'État, des intérêts économiques et des zones d'influence. Tout discours qui essaye de pointer des raisons d'une guerre en pointant un méchant, les méchants tournant à tour de rôle, et d'ailleurs n'étant pas toujours les mêmes, le gentil d'hier devenant le méchant d'aujourd'hui. Et à cet égard, un aspect que j'aimerais soulever, parce qu'il est peu discuté, les autres sont largement acquis, encore que, c'est un peu le discours qui présente les Russes et les Chinois comme étant un peu les empêcheurs de tourner en rond, qui bloquent le Conseil de sécurité et qui donc seraient fautifs. Moi, j'aimerais rappeler quand même qu'au sortir de la guerre froide, le pacte de Varsovie a été dissous, que l'OTAN s'est renforcée et qu'en 2003, année de l'attaque contre l'Irak, le président George Bush a mis à l'ordre du jour un projet de conquête sous le nom de Grand Moyen-Orient. Projet qui a été repris après sous nom de partenariat au sein du G8 et au sein de l'OTAN. Et puis il y a eu l'affaire libyenne en 2011 où des opérations ont été lancées. Les Chinois et les Russes n'ont pas fait d'opposition. Ils ont accepté au nom de la nécessité de protéger et ils se sont aperçus qu'on est allé jusqu'au renversement de régime. Ces éléments-là expliquent en grande partie la prudence, la réticence des Russes et des Chinois. Autrement dit, une responsabilité qui est aussi une responsabilité occidentale dans ce qui se passe là-bas. Voilà, en première analyse, ce que je voudrais dire. Et donc, deuxième remarque, pour compléter ce que dit Jean-Pierre Filiou, les révolutions arabes, et dans le prolongement de ce qui précède, les révolutions arabes, elles sont à la conjonction de ces deux facteurs-là. Facteurs internes qui sont de véritables révolte civique et populaire, mais facteurs extérieurs qui sont intrinsèquement présents dans toutes ces révolutions, influence de groupes islamistes à travers le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais aussi présence occidentale qui ne souhaite pas abandonner la région.
Gabriel Galis, c'est passionnant, mais vous ne répondez pas vraiment, franchement, à ma question. Est-ce que ce serait, selon vous, une solution crédible pour cesser les massacres ?
Je pense que ce n'est pas une solution crédible, premièrement parce que la diplomatie n'a pas fini son rôle. La diplomatie a été sabotée.
Bon, on va en parler justement, quid de la diplomatie avec vous. Si vous nous rejoignez dans le débat, Gaëtan Vanet, le chef de la rubrique internationale de notre rédaction, vous avez entendu les différentes réactions. Justement, parlons-en de l'action, justement de la diplomatie, avec déjà cette union Paris-Washington qui semble assez inédite. C'est carrément une première.
Oui, c'est une union. Je ne sais pas si on ose la qualifier d'union. D'ailleurs, on a vu depuis hier l'embarras de François Hollande parce qu'il avait eu des propos assez forts. Il a toujours été très partant. D'abord, il avait été partant déjà en mars pour armer les rebelles avant de reculer lui-même. Là, ensuite, après l'attaque chimique du 21 août, il a eu des propos très très forts. Il fallait ne pas laisser un tel acte sans une réaction internationale. Ensuite, on a vu la Grande-Bretagne qui a reculé puisque le Premier ministre britannique David Cameron a consulté son Parlement a rejeté sa motion qui demandait un feu vert pour une action, d'abord sur le principe, ensuite sur le détail. Et puis maintenant, on voit le président américain Barack Obama qui, lui, commence à consulter le Congrès, même quand il est encore en vacances. Donc François Hollande, qui jusque-là n'a pas besoin légalement, selon le système français, et qui n'avait pas émis le souhait jusque-là de consulter le Parlement, se trouve embarrassé ce matin. Et d'ailleurs, la pression sur lui augmente pour que lui aussi fasse ce pas de consulter le Parlement. évidemment. Alors quand vous parlez d'union inédite France-États-Unis, je suis pas sûr à l'heure actuelle de voir véritablement une union de ce côté-là. Puis bon, elle est pas vraiment inédite puisque sur la Libye, il y avait aussi des points de vue partagés.
Alors on va justement débattre de cette question aujourd'hui, de l'intervention, notamment de ses preuves aussi. Restez avec nous, Gabriel Gailis, Jean-Pierre Filiu, Gaëtan Vanet. Mais tout d'abord, on va peut-être faire le point avec les réseaux sociaux. Vous le savez, on peut nous appeler au 0800 23 33 33. Bruno Malik, beaucoup de réactions déjà depuis le début de cette émission, et notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de scepticisme.
Oui, mais aussi quand même des internautes qui voient aussi d'un bon œil une intervention crédible, en tout cas morale. Hein, c'est Romain Bellotti, président de la section PBD Riviera Pays d'en Haut, qui estime que nous ne pouvons pas rester spectateurs d'un massacre. Intervenir est une nécessité, écrit aussi Barry Lopez sur Facebook. Pour lui, heureusement que Hollande et Obama ont une conscience morale. Et sur Facebook également, Karuna Kaodi qui évoque une intervention juste, même si une telle intervention n'est ni banale ni facile. Et effectivement, c'est l'efficacité réelle que pourrait avoir une intervention que questionnent beaucoup d'internautes. Quelle serait cette efficacité? Faible, très faible, selon certains qui se demandent si Obama et Hollande ont vraiment une stratégie pour la Syrie. Je ne vois pas de plan concret, écrit un internaute. Et s'il se résume à détruire quelques casernes, alors il vaudrait mieux ne pas s'engager. Et puis je vous propose enfin d'écouter Bernard qui a enregistré ce message sur notre application mobile. Pour lui, il est définitivement trop tard pour une intervention.
Cette intervention arrive 2 ans trop tard. Maintenant, c'est simplement pour montrer la force des États-Unis et des Français. C'est complètement inutile, ça ne va rien régler.
Jean-Pierre Filiu, vous pouvez réagir à cette intervention de notre auditeur. Trop tard, 2 ans trop tard. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore aller vers une solution, même si la réponse militaire arrive tout simplement trop tard?
Je crois que nous vivons dans un monde d'adultes où on doit la vérité aux femmes et aux hommes. De toute façon, la crise syrienne ne va pas disparaître. Elle ne va faire que s'aggraver. Aujourd'hui, c'est trop tard. Demain, ce sera encore plus tard. Donc, ce qui est terrible, c'est d'avoir attendu aussi longtemps et de le faire dans des conditions aussi dégradées, avec un but aussi flou. Mais de toute façon, la crise syrienne ne pourra pas continuer sans ce type d'intervention. Et je voudrais juste réagir à l'analyse fort bien charpentée de mon ami Gabriel Gailis, mais qui est un peu, si j'ose dire, éthéré par rapport à la réalité d'un conflit qui a fait plus de 110 000 morts. J'étais personnellement un opposant acharné à l'invasion américaine en Irak, et je ne vois pas du tout comment on peut mettre ceci en comparaison avec cela. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les contorsions d'Obama pour ne pas aller en Syrie, pour se rendre compte qu'on est loin d'un appétit de puissance. En revanche, la Chine joue effectivement des intérêts légitimes au Conseil de sécurité. La Russie est-elle complice de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité? Ce sont ses armes, je l'ai vu à Alep, qui tuent des civils par centaines et par milliers. Ce sont ses conseillers qui règlent les batteries d'artillerie. Ce sont sans doute ses dispositifs qui permettent les bombardements, et je n'exclus pas une responsabilité de la Russie dans le récent drame et massacre chimique. Il y a quand même des similitudes très troublantes entre les images qu'on a vues à Damas et celles du théâtre de la Moscova il y a 10 ans, quand plus de 200 personnes avaient été
Qu'on comprenne bien, Jean-Pierre Filiu, vous êtes en train de dire que les Russes pourraient être derrière ces atrocités.
Je pense qu'ils savent beaucoup plus de choses que nous parce qu'ils sont co-belligérants. Et c'est là où on est dans une situation qui est complètement délirante du point de vue du droit international et du point de vue du droit des peuples. C'est qu'on demande au bourreau, le bourreau international, c'est-à-dire la Russie, le bourreau intérieur, c'est-à-dire Assad, d'être à la fois juge et parti et d'accepter d'être mis sur la sellette. Ça n'arrivera évidemment jamais. Alors, la grande force de Vladimir Poutine, c'est qu'il a une cohérence absolue dans sa politique et qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, alors qu'effectivement, on voit bien que du côté occidental, ça patauge, ça capote. Et quand il s'agit de la diplomatie, moi j'ai été pendant 20 ans diplomate de carrière, je rappelle que c'est durant la mission de l'ONU, sous l'égide de l'ancien secrétaire général et prix Nobel de la paix Kofi Annan au printemps 2012, que la Syrie a vraiment effectué sa descente en enfer avec une explosion des massacres, une généralisation des armes de terreur de masse, et que donc non seulement la diplomatie a eu son temps, mais elle a prouvé qu'elle avait permis, je suis désolé de le dire, de doubler, de tripler le nombre de morts civiles syriennes.
Réaction Gabriel Galis.
Oui, quelques réactions. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de continuité de raison d'État. Je pense qu'il ne faut pas minimiser la continuité des politiques de Bush à Obama et même de Sarkozy à Hollande. Il y a des accents différents, mais la raison d'État, c'est gouverné par des choses de la longue durée qui sont beaucoup plus continues. Et cette histoire de Grand Moyen-Orient, ça inclut effectivement la Syrie et l'Irak. Ça a été mis à l'agenda et personne n'a dit que c'était devenu totalement caduque. Ça donne d'ailleurs un poids prépondérant à la Turquie dans la région. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, Kofi Annan, qui était quand même bien qualifié, a vu succéder Lakhdar Brahimi. Tous deux ont pointé une difficulté à leur mission de paix. C'était la négociation diplomatique freinée par l'armement des belligérants. Donc, je crois qu'il y a un problème qui a été pointé par les émissaires et je dis, on a saboté la diplomatie. Troisième remarque, en réponse aux auditeurs qui disaient que moralement il faut y aller, je rappellerai quelque chose qui est oublié par les politiques, c'est cette distinction que posait Max Weber avec beaucoup de sagesse entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est ce qui nous pousse à agir, l'éthique de responsabilité, c'est ce qui permet à un décideur de mesurer les conséquences de son action. Et c'est bien là le cœur du problème. Dans cette affaire-là, faire jouer l'éthique de conviction pour punir Obama, comme si on était dans une cour d'école, ça n'est pas être dans l'éthique de responsabilité qui doit être celle des chefs d'État.
Oui, ce que vient de dire Gabriel Galis, c'est intéressant parce que c'est ce que je voulais relever justement sur nos deux interventions, Gabriel Galis et Jean-Pierre Filliu, les deux intervenants. C'est que quand on entend Jean-Pierre Filliu, il y a beaucoup le critère humain qui ressort. Il se base aussi de son expérience, de ce qu'il a vu sur le terrain, de ce qu'il a senti. Il parle de morale, on doit intervenir, de crimes contre l'humanité, etc. Et on entend Gabriel Galis qui a des réponses beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus géopolitiques. On a vraiment les deux aspects de la chose, d'un côté moral. Majoritairement, les gens disent il faut y aller. On a dit qu'on a 110 000 morts, 2 millions de personnes en exil, 4 millions de déplacés à l'intérieur même de la Syrie. Et d'un côté, on a tout le contexte géopolitique, on l'entend, est extrêmement complexe. Là, on dirait plutôt presque ne rien faire semble presque la meilleure solution, qu'on les laisse se débrouiller entre eux. Finalement, ils s'annulent, ils se battent entre eux, et comme ça, la situation géopolitique reste stable. Donc, je pense tant qu'on travaille sur ces deux volets. Il n'y aura jamais aucune réconciliation sur ce qu'il faut faire, puisque les deux sont, c'est vrai, aussi rarement conciliables.
Ce qu'il y a pour l'instant, en tout cas, c'est ce scepticisme que l'on a pu ressentir, que ce qu'on a pu lire durant tout le week-end, autour notamment de cette question de ces fameuses preuves, que John Kerry a encore rappelé hier, pouvoir détenir. Alors justement, sur ce point-là, Renaud Malik, on nous appelle beaucoup pour faire part du scepticisme.
Absolument, beaucoup de scepticisme par rapport à ces preuves que disent détenir les États-Unis. On a notamment eu l'appel d'un Suisse d'origine syrienne qui nous a contacté acté de Bienne au 0800 23 33 33. Lui, il est convaincu que les gaz chimiques n'ont pas été utilisés en Syrie. C'est une invention, une excuse, un prétexte pour déloger Bachar el-Assad. Un appel à la prudence aussi de la part d'André qui nous a appelé depuis. Pour lui, il faut avoir des preuves que les gaz ont bel et bien utilisé. Certains se demandent aussi, où est l'info, où est la propagande? C'est ce que demande Richard Gollet sur Facebook. Et puis Daniel Tchaïkovski du parti Pirate Genevois estime pour sa part qu'on ne sait toujours pas avec certitude si ce sont les rebelles ou le régime qui ont utilisé les vecteurs chimiques, une situation qui rappelle à certains le précédent irakien. Pour Jérôme Demeul, qui est le coprésident de l'UDC Valais, voilà encore une guerre qui paraît démarrer sur la base de prétextes. On nous refait le coup des armes de destruction massive.
Bon, j'imagine, Jean-Pierre Filliu, que ça doit vous faire réagir beaucoup de scepticisme donc de la part de nos auditeurs. Bon, vous avez pu au fil des années rencontrer Bachar al-Assad. On dit de lui beaucoup de choses, timide, peu charismatique, tyrannique, mais aussi, dites-moi si je me trompe, malin, intelligent. Et comment un homme justement intelligent pourrait ainsi tuer son propre peuple et surtout se mettre à dos toute la communauté internationale, déjà qu'il était mal en point?
Mais écoutez, ce qui se passe ces jours-ci prouve qu'il avait raison. Vu qu'on est face à un désarroi total, le doute, le scepticisme dans le camp occidental, alors que Poutine est droit dans ses bottes et que la presse de Bachar el-Assad se permet de se moquer du Congrès américain. Donc de son point de vue, il a gagné. Il faut voir que nous sommes avec une philosophie de dictateur qui est tout à fait implacable, qui est d'être prêt à tout détruire, à tout brûler pour ne rien céder. Et c'est pourquoi je me permettrai juste de ne pas me ranger définitivement dans la catégorie des moralistes un peu éthérés. Je crois au contraire que ce que je dis est, relève complètement de la réalpolitik. Tant que Bachar el-Assad est laissé libre de mener les crimes qu'il a perpétrés avec le soutien inconditionnel et la responsabilité directe de la Russie, eh bien c'est l'ensemble de la sécurité de la région, donc du monde, qui sont menacés. Je n'utilise aucun terme moral là-dessus. Je crois que de toute façon, il y a déjà eu beaucoup trop de morts. Et si la morale ou les consciences ne sont pas encore éveillées, c'est qu'elles ne se réveilleront jamais.
0800 23 33 33, vous le savez, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour nous rejoindre tous les matins. Eh bien, un auditeur nous rejoint en fin d'émission pour réagir ou poser une question à nos invités. Ce matin, Renaud, on nous appelle de où ?
Alors, c'est Mohamed qui nous appelle de Lausanne, il est informaticien.
Bonjour Mohamed, vous voulez réagir à ce débat ?
Oui, bonjour. J'aimerais justement rebondir à ce que vient de dire donc votre invité.
Jean-Pierre Fillu.
Absolument, oui, qui disait que effectivement c'est... C'est logique de dictature et en même temps il précisait qu'il est aussi intelligent, ce Bachar el-Assad. Donc franchement, c'est quelqu'un d'intelligent à qui on a mis une ligne rouge à ne pas franchir, sachant qu'il avait carte blanche, enfin entre guillemets, j'exagère, qu'il pouvait continuer à massacrer avec les armes conventionnelles, avec les chars, avec les avions, avec tout ce qu'on peut imaginer comme armes. Et puis, il fallait juste pas utiliser l'arme chimique. Et quand même, il l'a utilisée. Donc là, j'ai du mal à suivre un petit peu. On veut bien ne pas invoquer la théorie du complot, mais il faut pas non plus nous prendre pour des naïfs, pour croire que des plans qui sont en train de s'exécuter, que ça, c'est juste, c'est spontané, c'est venu comme ça. À un moment donné, Assad a décidé d'utiliser l'arme chimique parce qu'il est fou. Ce scénario a bien joué avec Kadhafi, mais je crois qu'on est c'est complètement différent avec Assad. Ça sert à rien de nous ressasser la même chose. Donc il faut une analyse plus approfondie, à mon avis.
Je vous remercie pour cette réaction, Mohamed. Gabriel Galis, que peut-on répondre justement? Bon, on a entendu beaucoup de fois le terme morale intervenir dans ce débat-là. Quid de cette morale dans une sordide guerre civile comme celle que vit la Syrie et bien évidemment de la communauté internationale qui semble moralement mal prise?
Je pense que la morale est très importante. Je pense qu'on ne peut pas faire de politique sans morale, mais je pense aussi qu'on ne doit pas réduire la politique à la morale ou instrumentaliser la morale. Ou comme disait Nietzsche, on parlait de moraline, la petite morale à tout faire. Donc la moraline, elle est dangereuse. Et je voudrais... Sinon, abonder dans les soupçons de l'auditeur qui vient d'intervenir, rappeler quand même que des suspicions d'exactions commises par certains groupes radicaux en Syrie concernent aussi bien des armes classiques que des soupçons d'armes chimiques qui auraient été tirées depuis la Turquie. Et je cite Carla Del Ponte, qui a participé à une mission de l'ONU sur le terrain. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, je ne suis pas du tout persuadé que la voie diplomatique est impossible et que même les Russes sont inaccessibles à des pressions qui seraient fortes autour d'une table. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient véritablement intérêt. Ils sont sur la défensive dans cette affaire. Ils veulent garder leur base navale, ils y sont depuis 30 ans. Bon, je ne désespère pas de possibilités diplomatiques parce que Poutine, avec tous ses défauts, n'est peut-être pas totalement fou non plus. Voilà, moi je pense qu'il faut croire à la diplomatie, il faut relancer Genève 2. Et pour relancer Genève 2, il ne faut pas faire comme les Français, interdire à l'Iran de s'asseoir à la table des négociations. Parce que quand on fait une négociation, on négocie avec ses adversaires et ses ennemis. On ne négocie pas qu'avec ses amis.
Relancer Genève 2 ou carrément faire du Genève 3 peut-être, parce que là on a l'impression que Genève 2 est passé au calendrier grec, Gaëtan Vanin.
Oui, puis la Russie, effectivement, Vladimir Poutine n'est peut-être pas aussi fou que ça. Et puis on peut peut-être se rappeler aussi que la Russie en 99 avait un excellent allié qui s'appelait Slobodan Milosevic. Elle s'opposait aussi à l'ONU à toute action contre lui. Il y a eu des actions hors ONU et puis la Russie n'a pas bougé énormément. Donc il y a encore un fond de, j'allais presque dire, un fond de bon sens parfois côté russe.
Que conclusion, et ce sera peut-être le mot de la fin avec vous Jean-Pierre Fillu, qu'est-ce qu'on va retenir, mais d'ici, quand tout cela sera derrière nous, les horreurs d'un despote qui gazait son peuple ou l'incohérence de la diplomatie internationale?
Bien les deux, et dans les livres d'histoire, ce sera une page très sombre. Moi-même, d'ores et déjà dans mon enseignement, j'utilise la Syrie comme cas d'école d'une crise qui aurait pu être réglée à un moindre coût et pour la population civile et pour le système international, et où on a une faillite générale par lâcheté, par aveuglement, par engagement, qui nous amène à la trajectoire actuelle où il n'y a plus que des mauvaises décisions.
Je vous remercie pour cette analyse et surtout pour ce débat, messieurs. Merci donc à Gabriel Galis, le vice-président de la Fondation J-Prix. Merci à Jean-Pierre Filieu. On rappelle votre dernier ouvrage. Vous l'avez publié chez Fayard, Le Nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne. Merci également à Gaëtan Venet, le chef de la rubrique internationale de la RTS. Et bien évidemment, merci à vous pour vos nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous pouvez nous suivre via nos comptes en ligne directe. La réaction d'ailleurs, qui vous fera peut-être plaisir, d'un auditeur du Jura, c'est Jean-Claude qui nous disait.
Oui, qui nous disait que les deux invités ici présents devraient intervenir à la RTS plus souvent. Ils mettent le contexte, ils amènent plus de compréhension au conflit.
Merci à vous donc, messieurs Gabriel Galis et Jean-Pierre Filieu.